À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.
Bonsoir, avec une équipe quasi nouvelle aujourd'hui, puisqu'on a William à la technique. Bonjour William, bonjour, bonsoir. Et puis Dominique, alors dire une équipe nouvelle avec Dominique, c'est légèrement exagéré, puisque Dominique, de temps en temps, vient dans notre émission, avec plaisir pour nous, je suppose pour lui aussi, j'espère.
Oui, absolument, bonjour. Voilà.
Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler de chansons et de littérature. Quasi exclusivement d'ailleurs,
je crois,
de
bien,
chansons
oui.
Et de littérature. Alors récemment, vous avez appris tous la disparition du chanteur canadien Leonard Cohen. Et cela va m'amener à parler de l'audience des auteurs-compositeurs étrangers en Italie. Notamment de ceux du continent américain. Parce que, en fait... Pendant le fascisme, évidemment, toute la période fascisme avait retardé en Italie l'arrivée, on va dire, le développement de la chanson d'auteur, qui, par contre, avait commencé déjà aux États-Unis et voire même en France. Alors, la proximité de la France explique que les premiers auteurs-compositeurs qui ont été traduits en italien ont été surtout des Français. Brassens a été beaucoup traduit, plus tard, quasi en même temps, Brel, on en connaît d'autres, Aznavour a été traduit, Léo Ferré, non seulement a été traduit, mais s'est chanté lui-même. Voilà. Et puis, dans les auteurs-compositeurs italiens qui, à la fois, chantaient leurs propres chansons et chantaient des chansons d'auteurs-compositeurs étrangers, On a eu surtout Fabrizio De André et Francesco De Gregori. Ce n'étaient pas les seuls, hein, évidemment. Alors Fabrizio De André, il a commencé par Brassens, d'une part parce qu'il l'admirait beaucoup. D'ailleurs, ils ne se sont jamais rencontrés, Brassens et De André. Brassens appréciait les versions de De André. De André appréciait beaucoup Brassens, mais ils ne se sont jamais rencontrés. De André disait d'ailleurs, je disais, puisque malheureusement il est décédé, qu'il avait quasi peur de rencontrer Brassens, tellement il l'admirait. Alors, chose assez drôle, c'est qu'on pense que De André a une lointaine origine provençale, par une partie de sa famille, et Brassens a une partie maternelle italienne. Voilà. Alors, pour De André, il s'est donc attaché à traduire Brassens. Et puis, il avait aussi traduit d'abord Dylan. Dans plusieurs chansons, il a traduit Dylan en version italienne, avec l'aide, par exemple, de Francesco De Gregori ou d'autres traducteurs ou compositeurs italiens. Les deux grands donc, dont on parlait, c'est-à-dire De André et De Gregori, sont aussi attachés donc, à faire connaître Leonard Cohen, puisqu'on parlait là de la disparition de Leonard Cohen, que souvent on considère comme américain. Enfin, il est du continent américain, mais il est né en fait. Il était né à Montréal en 1934. Avant d'ailleurs de faire de la chanson, il avait publié des recueils de poésie et des romans. Hein.
Et c'est parce qu'il ne gagnait pas suffisamment sa vie qu'il a imaginé que se mettre à chanter, ça serait pas mal.
Absolument, absolument. Alors, pour ce qui est de De André, il a proposé en fait 4 chansons de Leonard Cohen en traduction. La première, c'était en 1972, c'était Suzanne. Ensuite, il a proposé la même année que Suzanne, il a proposé une version italienne de Jeanne d'Arc, enfin Giovanna d'Arco. qui était Johann of Arc en italien, en anglais, pardon. Ensuite, il avait proposé une chanson qui est Seem So Long Ago Nancy. Il l'a traduite en italien par Nancy, tout simplement. Mm. Donc c'était la troisième chanson. Et la quatrième, qui en anglais était Famous Blue Raincoat, est devenu Famosa Volpe Azzurra en italien, allez savoir pourquoi. Donc celle-là, il l'a traduit avec Sergio Bardotti. Alors Sergio Bardotti maintenant a disparu, mais c'est un compositeur italien, traducteur on peut dire, parce qu'il a traduit beaucoup de chansons d'auteurs étrangers, que ce soit d'Amérique latine, que ce soit d'Europe, que ce soit d'Amérique du Nord, en italien. Donc voilà donc pour les quatre chansons que De André avait traduit en italien. Pour Francesco De Gregori, lui il a une approche différente, c'est-à-dire qu'il a lui aussi chanté Leonard Cohen par exemple ou Dylan, mais Leonard Cohen, on n'a pas d'enregistrement, pas de discographie de Francesco De Gregori chantant Leonard Cohen. Alors que, en public, notamment quand il a commencé, il était au Folk Studio de Rome, là, il chantait du Leonard Cohen, dès que, évidemment, les chansons de Leonard Cohen avaient été publiées. Et il a interprété notamment, lui aussi, Giovanna d'Arco, Suzanne, Nancy, Marianne aussi. Et il a, par contre, beaucoup parlé des chansons de Leonard Cohen et de Leonard Cohen dans ses chansons écrites. Il faisait référence à Leonard Cohen. Par exemple, dans un album qui s'appelait Theorius Campus, qu'il avait écrit avec Antonello Venditti, dans une des chansons, il décrit des objets de grande valeur. Et dans ces objets de grande valeur, il cite les disques de Leonard Cohen, puisqu'on parlait de disques à l'époque, bien sûr. Quand il était donc à ce folk studio, il chantait souvent avec Giorgio Locascio, qui était un chanteur italien également connu. Alors, si vous vous baladez sur Internet, il est possible, je dis bien possible, que vous trouviez des interprétations de Apresto Marianne, et qui n'a par contre pas été, comme je le disais tout à l'heure, gravé sur disque, voire des chansons aussi de Un letto come un altro, qui est la traduction de Tonight will be fun. Mais encore une fois, vous pouvez les trouver, mais c'était des enregistrements publics non enregistrés en discographie. Voilà, alors sinon, le frère de De Gregori, parce qu'il avait un frère aussi qui était auteur-compositeur, mais qui avait pris le nom de sa mère pour son nom d'artiste, qui est Luigi Grecchi, lui avait traduit et enregistré une chanson de Leonard Cohen qui était La Regola d'Oro, qui était One of Us Cannot Be Wrong. Donc la traduction n'est vraiment pas littérale là. Alors pour en revenir à Fabrizio De André, et pour parler de ce qu'il pensait de l'adaptation d'un auteur étranger, il disait que lorsqu'un auteur ne se sent pas assez inspiré, il parlait de lui-même en fait, quand il ne se sent pas assez inspiré, pour assumer la création d'une chanson, il parlait même de la responsabilité de la création. Et dans ce cas-là, il est bien, selon lui, de ce qu'il disait, qu'il traduise d'autres collègues étrangers. Alors il dit que ça a plusieurs points d'intérêt, d'une part parce qu'il s'exprime dans une autre langue que la langue italienne, et que ça permet, selon lui, d'atteindre au traducteur, qui lui-même chante la chanson qu'il a traduite, ça lui permet d'atteindre deux buts immédiats. Celui de se frotter à d'autres mots, ça c'est une évidence bien sûr, et de faire preuve d'humilité, dit-il. Ce qui est plutôt un compliment par rapport aux auteurs qu'il traduit. Et ensuite, ça permet de faire connaître la poésie plus ou moins importante qu'on peut trouver dans des chansons en langue étrangère. Parce que, comme dans les auteurs-compositeurs italiens ou français ou de tout pays, il y a une part poétique qui peut être plus ou moins importante selon le type de chanson. Mais Il ajoutait, c'est là où je sais, Dominique, que tu es très sensible au domaine de la traduction. Ce qu'il dit là est assez intéressant. Il dit, je me moque de la traduction littérale.
Il a bien raison.
Je me moque.
Il a entièrement raison.
Je cherche plutôt à rentrer dans l'esprit de la chanson, dans celui de qui l'a composée, et je suis prêt à une perfide infidélité à la chanson de départ, si c'est pour mieux en restituer sa beauté.
Absolument. Moi, il y a un mot que j'aime bien, c'est pas le seul, mais c'est le mot transcription. On transporte dans un autre univers quelque chose qui ne vient pas de soi.
Voilà, alors c'est vrai pour la chanson, c'est vrai pour la poésie, c'est vrai pour le roman aussi.
Bien sûr.
Voilà, alors comme promis, on va quand même entendre une chanson de Fabrizio De André dans sa traduction de Suzanne.
Nel suo posto in riva al fiume Suzanne ti ha voluto accanto e ora ascolti andar le barche e ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei e ti offre il tè e le arance che ha portato dalla Cina e proprio mentre stai per dirle che non hai amore da offrirle. Lei è già sulla tua onda e fa che il fiume ti risponda che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che le hai toccato il corpo, il suo corpo perfetto con la mente. E Gesù fu un marinaio finché camminò sull'acqua e restò per molto tempo a guardare solitario dalla sua torre di legno e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo disse siate marinai finché il mare libererà. E lui stesso fu spezzato ma più umano abbandonato nella nostra mente lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiargli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in lui perché ti ha toccato il corpo con la mente. E Suzanne ti dà la mano, ti accompagna lungo il fiume, porta addosso stracci e piume presi in qualche dormitorio, il sole scende come miele su di lei, donna del porto, che ti indica i colori. Fra la spazzatura e i fiori scopri eroi tra le alghe marce e bambini nel mattino che si sporgono all'amore e così faranno sempre e Suzanne regge lo specchio. E tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che ti ha toccato il corpo, il tuo corpo perfetto con la mente.
Bien, donc Suzanne de Fabrizio De André. On va continuer avec la chanson, mais cette fois avec une chanteuse.
Une chanteuse, Erika Boschiero. Donc, Linis avait invité pour un concert exceptionnel. Elle était accompagnée de son musicien habituel, Sergio Marchesini. Et tous les deux ont travaillé, on peut le dire comme ça, avec Paolo Cossi, qui est un super dessinateur de BD, italien, bien sûr. Et tous les trois nous ont régalés avec un spectacle magnifique. Donc on les a interviewés.
Voilà, qui était à l'occasion donc, du
festival Estrade.
Voilà. Donc l'interview, Dominique l'a réalisée lui-même. On entend peut-être un bout de l'interview en italien ?
Oh bah, ça paraît indispensable.
Allora, non lo abbiamo preparato a lungo. È stata una situazione un po' magica. Nel senso, abbiamo fatto una prova sola io e Sergio prima e tutto è venuto molto naturale. E poi una con Paolo e abbiamo ognuno portato delle idee così, ma sembra strano perché ci sembra che ci sia dietro una regia, almeno così ci hanno detto, una regia molto pensata, no? Con tutto un percorso, però è venuto tutto molto naturalmente e quindi ci siamo stupiti anche noi di come in poco tempo siamo riusciti poi a costruire tutto lo spettacolo. Poi in realtà lo abbiamo sistemato, aggiustato con alcune cose, però è stato tutto molto fluido e naturale.
E per lei era un impegno in più, cioè non solo cantare, ma essere un po' dipendente dell'artista,
ma penso che sia più lui dipendente da noi, perché siamo noi a dettare i tempi, quindi per me non è un problema, bisogna chiedere a lui.
Sì, beh, diciamo che in realtà la cosa importante per questo spettacolo, per tutti e tre, è l'ascoltare l'altro. Io ascolto loro, cioè io ascolto Erika, Sergio ascolta Erika, ma Erika ascolta Sergio, cioè dobbiamo entrare veramente in una sintonia, no? Uh-huh. Perché questi elementi che sono la musica, la voce e il disegno riescano a fondersi in uno spettacolo che funzioni, che riesca a esprimere delle emozioni, cioè che riesca a emozionare, ecco. Uh-huh. Per emozionare questi tre elementi devono riuscire a essere ben equilibrati, e l'unico modo per farlo non è provare tanto, ma è ascoltarsi.
E allora il più che mi ha impressionato è la posizione sua, cioè qualcuno immobile, quando si guarda lo schermo si vede le mani che lavorano tanto, però sono rimasto sorpreso a vedere il disegno che viene molto presto e il signore immobile.
Sì, io sono nel fisico immobile, mm-hmm. ma in realtà con la testa, diciamo, il cuore, io sto viaggiando dentro quei mondi che disegno. Mm-hmm. E viaggio accompagnato da questa musica che mi fa andare veloce, che mi fa proprio ballare in questi mondi di montagne, di fate, di folletti che vado a disegnare, no? Quindi è come se il corpo rimanesse in un'altra realtà. Mm-hmm. E io entro in quel mondo fantastico che poi è il mondo nel quale noi vogliamo richiamare anche il pubblico, gli spettatori.
È difficile?
Beh, non è facile, non è facile, ma diciamo che comunque avendo l'aiuto di musicisti bravi come Sergio, una cantante brava, molto brava come Erika, mi viene più facile lasciarmi andare, no? E quindi, però ovviamente le tecniche, cioè è difficile, come è difficile anche preparare, fare delle belle canzoni o suonare in maniera armoniosa la fisarmonica all'interno di queste cose, quindi sì, non difficile ma neanche facile.
Ricomincerà questo giorno questo tipo di esperienza, insomma?
Sì, cioè questo spettacolo.
Spettacolo, sì.
Sì, beh, noi lo porteremo in giro. Adesso abbiamo altre date in Italia.
Con Erika?
Sempre con Erika e Sergio. Mm-hmm. Anche perché siamo un trio che non può mancare uno. Siamo tutti e tre.
Sì, anche io, sì.
Sì. Mm-hmm. Questo spettacolo nasce così e così deve andare avanti, ma penso che sia, insomma, per tutti. Per mm-hmm. tutti così.
Faudrait arrêter.
Voilà, alors il y a beaucoup de choses dans l'interview.
Oui.
Alors déjà, c'était évidemment pas enregistré dans le studio, c'est pour ça que vous entendez du bruit, c'était enregistré directement dans la salle de spectacle, un petit intermède entre les répétitions. Et Alors au début, la question était à Erika et son musicien et son dessinateur Paolo, était de savoir si ce spectacle avait demandé beaucoup de travail et surtout une longueur de travail quantitativement. La réponse d'Erika a dit bizarrement non. Disons que l'idée de spectacle même et son quasi-résultat a été assez rapide. Tout a été assez fluide et ils se connaissaient déjà parce qu'ils faisaient d'autres spectacles ensemble. Mais une fois que l'idée a été lancée, tout a été relativement vite dans la construction. Ce qui ne veut pas dire après qu'ils n'ont pas effectivement répété, peaufiné, etc. Après, dans les questions posées à Erika, si je me souviens bien, Dominique demandait si elle était très dépendante du dessinateur Paolo. Puis elle répondait que c'est en fait l'inverse.
C'est l'inverse, bien sûr.
C'est lui qui dépend d'elle et de Sergio, le musicien. Dans les autres questions posées, si tu les as posées toi-même.
Alors, Paolo, eh bien, il répond sur la même question, à savoir est-ce que ça a été difficile. Alors, pour lui, l'essentiel, il emploie le mot syntonie. Il faut que le musicien, la chanteuse et le dessinateur soient en parfaite harmonie, que l'un écoute l'autre. Mais que c'est quelque chose de très agréable. Et en même temps, il ne nie pas la difficulté de produire des dessins quasi instantanément.
Puis l'idée intéressante aussi à la question du fait qu'il soit assez pratiquement figé au niveau du corps. Et on voit la main bien sûr travailler sur l'écran, mais lui-même est quasi immobile.
Ah, complètement.
Et elle disait qu'en fait il est immobile au niveau effectivement du corps, à part la main bien sûr, mais que le rythme lui est donné par la chanson et la musique. Et il dit que ce n'est pas facile, c'est un peu plus facile quand on a des gens de talent comme Sergio et Erika. Je confirme, des gens de talent.
Est-ce qu'on va écouter une chanson maintenant ?
Pourquoi pas, puisqu'on parlait de Erika, on va l'écouter. Alors on va l'écouter, un extrait de son dernier album qui est Caravan Bolero, son album, le titre de l'album. Mais on va écouter une chanson qui s'appelle Un Horizonte Non Basta, où elle a collaboré, puisqu'elle est auteur-compositeur-interprète, quelquefois elle travaille avec d'autres auteurs ou musiciens, mais quasi exclusivement elle compose elle-même, et musique et paroles. Mais là, elle a été aidée par Edu Ebling, qui est un musicien brésilien qui joue d'ailleurs avec elle aussi quelquefois en spectacle.
È quel profumo di neve che arriva giù fino a valle. Del vento che soffia forte da nord e mi richiama le vene, è per volere del piede che vuole essere ala, io non posso dormire e vado dove la luce arriva prima che altrove, arriva prima che qui. Mano e la pietra che si ricercano nude a disegnare il cammino, la faccia contro la roccia, solo il respiro del vento mescolato col mio mi porta su fino in cima e mi deposita piano, e allora alzo lo sguardo e poi spalanco le braccia e tutto il peso scompare. E tutta la terra intorno, e aria,
guardo le cime dall'alto mentre diventano azzurre e il sole brilla ponente. Potrei restare stanotte, potrei morire qui sopra bevendo tutte le stelle, ma è per volere del piede che vuole essere strada. Io no, non posso restare. Così ritorno sui passi che mi riportano a casa e alla
Il spettacolo nasce così e così deve andare avanti, ma penso che sia insomma per tutti così. E, diciamo, il nostro desiderio sarebbe riportarlo comunque in Francia, perché abbiamo trovato un'accoglienza veramente speciale. Sì.
Sergio, la sua impressione?
Ma l'unica cosa che posso aggiungere a tutto questo è che anche dal punto di vista musicale è molto bello, perché c'è molto spazio. Cioè, nonostante, sì, per tutto quello che succede, cioè, quello che si vede di una tela bianca che mano a mano prende forma, c'è anche nella musica, perché c'è molto una costruzione fatta in due persone, quindi non è come quando c'è un gruppo che è già molto pieno, no? E secondo me questo fa anche un effetto di, come dire, fa entrare anche il pubblico, il fatto che ci siano questi grandi spazi che piano piano andiamo anche noi musicalmente a colorare.
Allora, questa è una bella domanda, nel senso, sto cercando di capire, sono in una di quelle situazioni in cui bisogna prendere delle decisioni musicali e quindi non so ancora quali saranno, perché devo realizzare il mio nuovo album a prescindere da quello con Paolo e Sergio, che sarà una cosa invece più particolare, però di fatto è quindi un momento molto interessante, sto cercando di capire dove andare e nel frattempo... porto avanti questi spettacoli collaterali che in realtà mi danno molta soddisfazione, perché poi appunto quello che dicevo prima, no? Quando la musica viene così amplificata, anche perché la musica non si può né toccare né vedere, no? Se ci pensi è aria e basta. Attraverso Paolo e poi attraverso anche i colori che ci mette Sergio, perché Sergio veramente sembra che dipinga con la musica, anche le mie canzoni che sono nate in camera con la chitarra semplicemente diventano mondi, no? Anche per me, quindi io stessa mi stupisco ogni volta, quindi ci sta il mio percorso personale, continua, adesso capirò che direzione prendere, però ci tengo molto a questi progetti con Paolo e Sergio, perché mi ci trovo molto bene, mi stupiscono, mi emozionano me in prima persona, quindi è bello. Poi ci divertiamo insieme, dai.
Lo si vedeva durante il concerto, sì, posso permettermi.
Per tornare sull'argomento della cantautrice, a marzo abbiamo invitato Giua, che forse avrà un progetto con Erika.
Quel progetto.
Questa, oddio, è la prima volta che lo diciamo in pubblico, però sì, stiamo meditando di realizzare un progetto insieme, tre cantautrici, io, Giua e Pilar, che forse conoscete, ma anche lì, perché andiamo molto d'accordo umanamente, ci divertiamo molto e le nostre musiche si prestano a essere unite, semplicemente noi tre, senza musicisti, quindi tre donne con le nostre chitarre, vediamo, insomma, magari capiteremo qui anche con loro, però diciamo che è bello fare la musica insieme, da soli è un po' così limitativo, invece insieme è bello.
Paolo, non conosco tanto la sua opera, però ho l'impressione di due direzioni, cioè Ugo Pratt, mm-hmm. l'ombra del maestro, sì. e poi l'Armenia, sono rimasto sorpreso, diciamo, e adesso ho visto l'ultimo album, Tarantismo, allora...
Sì, allora, il mio arrivo nel panorama francese con la BD nasce proprio con questo libro sugli armeni, o meglio sul genocidio armeno, che per me era un argomento molto importante e l'ho trattato come sapevo farlo, cioè col fumetto, attraverso il fumetto. E questo mi ha permesso di entrare poi anche a conoscere la cultura armena e di far poi un altro libro che è sempre uscito in lingua francese, sempre dedicato all'Armenia, al Monte Ararat. E questo perché principalmente i miei lavori sono lavori storici, quindi ho sempre lavorato su fumetti storici, sulla BD storica. E quella di Ugo Pratt, ovviamente qualunque fumettista prima o poi incontra Pratt sul suo cammino, perché comunque è il maestro della narrazione, della sintesi, del segno, eccetera. Quindi ovviamente mi sono trovato a Pratt e ho detto: perché non raccontarlo con un fumetto, la vita di Ugo, che è stata una vita particolarissima, molto avventurosa, molto particolare, ecco. E anche quel fumetto lì, che poi sono tre volumi, mantiene un taglio storico, perché sì, è vero che io parlo di Ugo, ma parlo di Ugo all'interno di contesti storici. Il primo volume è per esempio l'occupazione in Etiopia durante la guerra, il secondo è il periodo del dopoguerra a Venezia, il terzo è quello dell'Argentina, quindi gli emigranti in Argentina, eccetera. L'ultimo lavoro è questo sulla Taranta, anche questo è un libro, diciamo, forse più antropologico che non storico, perché comunque era un argomento che mi interessava molto, cioè andare a scavare, sia perché comunque è legato alla musica, ma è legato anche a tutta una serie di rituali molto antichi, così. E quindi ecco perché appunto questo ultimo lavoro.
Bien, vous êtes bien toujours sur Couleur FM 97.1, on est toujours dans les interviews réalisées par Dominique Molin au mois d'octobre pendant le Festival Estrade, et plus particulièrement l'interview de Erika Boschero, Sergio Marchesini et Paolo Cossi. Tout à l'heure, nous avions entendu Erika et Paolo parler du contexte de la création du spectacle qu'ils nous ont proposé. Et l'interview continue sur Sergio, qui explique... il a beaucoup parlé d'espace.
Oui.
D'espace dans lequel rentre à la fois la musique, la peinture et le public. Il dit que c'est différent d'un spectacle où les musiciens jouent, plusieurs musiciens jouent ensemble, parce que là, il y a évidemment plusieurs types d'art, et le dessin attire l'œil du public qui rentre complètement dans le spectacle, et la musique devient... sa musique souligne, en fait, la voix aussi souligne le geste et le croquis ou la peinture. Ensuite, c'était plus des
questions sur
la carrière
d'Erika et puis de Paolo ensuite.
De Paolo. Hein. Alors Erika qui continue bien sûr son parcours d'auteur, compositeur, interprète, puisque les morceaux qu'on passe aujourd'hui sont extraits de son dernier album, fait effectivement des spectacles parallèles, on va dire, avec des expériences différentes, notamment avec Paolo Cossi et Sergio. Elle dit d'ailleurs qu'elle prend beaucoup de plaisir à faire ce type de spectacle. Sur sa carrière elle-même, bon, elle s'interroge toujours sur quel va être le prochain album. Elle commence à travailler toute seule dans sa chambre avec sa guitare, et puis après tout ça prend vie. Hein. Et elle nous a fait une petite... quasi une avant-première de révélation en tous les cas, puisqu'elle nous l'avait dit en aparté. On avait fait venir Inis au mois de mars une chanteuse génoise, Jua. Elles sont de la même génération, hein, elles ont quasi le même âge, très intéressante aussi. Et ce qu'elle n'a pas précisé là, c'est qu'elles ont joué ensemble le mois dernier à Padoue. Et puis cela leur a donné l'idée de probablement même, de faire un spectacle à trois en y adjoignant Pilar, qui est une chanteuse romaine aussi jeune et de grand talent. Et si ce spectacle naît, ce sera un spectacle de trois femmes accompagnées d'elles-mêmes par trois guitares. Honnêtement, si elles le font, on est preneur, hein, vu leurs talents respectifs. Ensuite, la même question de carrière était posée à Paolo Cossi. Dominique posait la question de deux directions, semble-t-il, prises par Paolo dans sa création de bande dessinée. L'une, on va dire, en référence un peu à Hugo Pratt, l'autre sur l'Arménie, le génocide arménien notamment.
Il nous a précisé qu'il a fait des études d'histoire, je crois, absolument, et que ce sont des préoccupations d'abord historiques.
Absolument, hein, qui sont en fond de ces...
Voilà.
Et puisque même à la question posée sur Hugo Pratt, il dit que tous les dessinateurs, illustrateurs, trouvent un jour Hugo Pratt sur leur chemin, ce qui paraît logique, qu'ils le considèrent comme un maître. Mais même pour Hugo Pratt, il s'est attaché à un côté historique, voilà, c'est-à-dire qu'il a vu trois volets. Le Hugo Pratt, où il y avait un fonds d'occupation italienne en Éthiopie, le Hugo Pratt à Venise, et puis la famille d'Hugo Pratt qui a émigré en Argentine, comme beaucoup d'Italiens. Donc il a repris ce côté, tout en créant Hugo Pratt, il a repris ce côté historique. Et pour l'Arménie, évidemment, il a développé le génocide arménien. D'ailleurs, il a quelques soucis, il ne peut pas se déplacer en Arménie. En Turquie, pardon, pas en Arménie, évidemment. Voilà le sens général des interviews. On va peut-être écouter...
Je pense que ça serait bien.
Donc, on va écouter un deuxième titre de Erika qui s'appelle « Souvenir », tout simplement. Elle en a assuré elle-même l'écriture et la musique.
Ti porto un souvenir dal prossimo mio viaggio, che sarà nel deserto in ogni mio miraggio, e tirerò una corda fra la palma e il vento, sarà l'aquilone, il mio bastimento. Souvenir che sa di acqua e sale, ti porto un souvenir preso dal temporale, ti porto un souvenir e una bottiglia vuota ed un ragnetto appeso a questa nuova nota. La terra dei poeti sa di sabbia e vento, hanno bandito i soldi e i muri di cemento. Hanno lasciato il tempo steso ad asciugare e un paio di finestre a far entrare il sole. Ti porto un souvenir dal ventre del pianeta, un sasso, una conchiglia, un'ape, una moneta, un cristallo d'argento, chiederò al ghiacciaio ed un secondo inciso dall'orologiaio. Ti porterò una mappa che non ha confini e delle indicazioni su dei bigliettini. Non serviranno strade o rotte da capire, solo gli occhi chiusi quando è l'imbrunire. Sa di sabbia e vento, hanno bandito i soldi e i muri di cemento, hanno lasciato il tempo steso ad asciugare e un paio di finestre a far entrare il sole.
Alors Dominique, il y a eu beaucoup d'autres questions qui ont été posées à ce beau trio. Et puisqu'on parlait, il parlait là de leur carrière, tu leur avais posé aussi d'autres questions sur comment concilier une carrière et éventuellement un autre métier, ou est-ce qu'ils vivaient de leur art, en fait? Alors, et les réponses étaient différentes.
Bah, les réponses sont différentes, mais par exemple, le musicien, l'accordéoniste, le musicien de Erika, lui, il a fait le choix de la liberté, c'est-à-dire qu'il a un travail. Et puis, il fait de la musique en dehors de ses heures de travail, ce qui lui permet de faire complètement ce qu'il veut. Et c'est intéressant parce que ça rejoint la question que j'avais posée la veille à d'autres musiciens italiens qui étaient venus dans mon cours, et je leur avais demandé la même chose. Est-ce qu'on vide sa musique en Italie? Et on a le même type de réponse.
Voire au-delà, puisque...
Oui,
cours,
en plus, on avait la Slovénie, on avait, voilà, hein, effectivement, est-ce qu'on vide sa musique? Non, et puis, on ne veut pas faire de la musique qu'on n'aime pas, donc pour être libre, on est obligé de travailler.
Mm-hmm. Erika,
et alors, pardon, Alain, il nous envie notre statut des intermittents du spectacle.
Mm-hmm. Oui, je sais, il nous en parle souvent, beaucoup l'envie d'ailleurs, ce statut, mm-hmm. Croisons les doigts.
Oui,
croisons les doigts. Et Erika, par contre, elle vit de sa musique,
voilà,
complètement.
Voilà. Mmh.
Mmh. Et Paolo, donc, il est dans un système qui est un tout petit peu différent, puisque là, on ne touche pas à la chanson, mais là aussi, c'est un art. Donc, alors lui, à la fois, il publie, bien sûr, mais bon, il crée à côté, il a aussi une... Il vient de créer une... sorte de maison de la BD là, dans sa région.
Oui.
Il est actif en dehors de son art proprement dit.
Mais quand même, il se consacre essentiellement à la bande dessinée.
À la bande dessinée, hein. Et les travaux annexes sont liés à la bande dessinée.
Voilà, c'est ça.
Façon.
Mmh, mmh.
Voilà, donc on aurait encore beaucoup de choses à passer dans les interviews. Mais bon, on voulait vous donner une petite idée de ce trio et des choses très intéressantes qu'ils ont pu raconter sur leur carrière, sur leur spectacle et sur les à côté du milieu artistique. On va peut-être parler de littérature maintenant.
Ben, on peut essayer.
On va essayer. Alors,
je voudrais évoquer c'est un premier roman. Un premier roman d'un auteur sicilien qui s'appelle Davide Enya, Sur la terre comme au ciel, qui est publié par Albin Michel et qui est sorti en France en 2016. Donc c'est un premier roman qui raconte et entrecroise les destinées d'une lignée de boxeurs pratiquant le noble art pour se dépasser. Ça se passe en Sicile. L'auteur est drôle, qui nous emmène par le bout du nez avec une habileté diabolique. Et il est grave quand il raconte les exactions de la mafia ou les souvenirs de guerre du grand-père. Son livre, tout en dialogue, cultive sans jamais trop en faire émotion et suspense, tristesse ou drôlerie, et raconte les élans et les déceptions de l'adolescence, la sagesse des adultes qui l'entourent, la tendresse d'une grand-mère qui comprend tout, le regard approbateur d'un grand-père qui n'a pas besoin de parler pour se faire comprendre. Les récits du grand-père, du petit-fils, de l'oncle se rencontrent, et se croisent, se complètent et s'éclairent l'un l'autre. Les garçons, les filles, la guerre, la violence terroriste aveugle, Palerme, l'histoire d'amour entre Davidou et Nina. On se régale. C'est vraiment, ça a été un très grand plaisir de lecture. Je le recommande très chaleureusement.
Donc on peut le trouver
On le peut le trouver dans sa librairie préférée. Et encore une fois, il me semble que pour un premier roman, c'est vraiment quelque chose de très remarquable.
On écoute un
on pourrait
petit
écouter,
peu de musique.
Oui. Qu'est-ce que tu nous proposes?
Alors je propose le groupe pour Warnian, qui n'est pas de Sicile mais des Pouilles. Ce n'est pas leur premier album, mais c'est le plus récent, il vient juste de sortir. Ce groupe travaille beaucoup sur la musique traditionnelle et il crée aussi. Il fait partie de ces nombreux groupes italiens qui a été formé à la musique traditionnelle, mais il a fait évoluer entre guillemets en créant aussi eux-mêmes certaines chansons, musique, etc. Donc là, on va écouter le groupe Warnian dans un titre qui est en dialecte pugliese qui s'appelle La Fournaise. Alors c'est toujours un petit peu dans une référence traditionnelle, un petit peu des histoires qu'on retrouvait. Là, l'histoire, c'est une histoire d'une jeune fille à qui un jeune homme s'adresse en lui disant « Donne-moi un baiser, petite, avec ta bouche parfumée de café. » Et la jeune fille répond « Non, je ne peux pas te le donner car je suis trop jeune, effectivement. Et donc, il faut que ta frénésie disparaisse. Il faut que tu te calmes, en grosso modo. Je n'ai même pas 15 ans et tu me veux. Alors, dis-moi un peu ce que tu veux faire de ma vie. » Elle veut quand même savoir. « Si tu veux mon cœur, ben, il est sous ma poitrine, et si tu veux ma vie, ben tu dois demander à ma maman. » Ça, c'est au début. On ne sait pas, en fait, si elle a vraiment 15 ans. Hein. Et puis après, c'est... Bon, on ne va pas dérouler toute la chanson, mais après... « Amant, puisque tu n'arrêtes pas de me tenter, c'est pas la peine de te vanter quand tu es chez le coiffeur que tu vas me laisser tomber parce que je suis un peu folle. » Non, non, mais moi, je m'en irai un jour de la maison et vers la marine, en fait, vers la mer, parce que, bon, alors après, elle développe tout ça, parce que là-bas, il y a de beaux jeunes hommes qui ne sont pas comme ceux d'Altamour. Altamour, c'est sa région, qui, eux, ne sont pas des jeunes gens très recommandables. En fait, la tentation, finalement, la mer, peut-être, oui, pourrait donner la permission, mais bon, on peut aussi s'en arranger. Alors, là, à la voix, donc au chant, vous avez Maria Moramar, qui est vraiment une voix très intéressante dans la chanson dite traditionnelle italienne. On a Daniele Di Bonaventura au bandoneon, Luigi Bolognese, qui est le mari de Maria, à la guitare, et Silvio Teotte, tout ce qui est djembé.
Salvo vai ristai in a chiangalis.
Voilà, donc vous êtes sur Couleur FM 97.1, c'était le groupe Waragnan.
Alors Alain, je vais évoquer un autre roman, la même chose, une lecture absolument superbe, c'est de Fabio Genovesi, D'où viennent les vagues, et c'est publié par Jean-Claude Lattès, c'est un bouquin qui est également sorti en 2016. Et c'est l'histoire pleine d'invention, d'humour et de tendresse d'une petite fille albinos, elle a 12 ans, qui vit sous le regard d'un frère plus âgé à qui tout réussit. C'est l'histoire également de sa mère coiffeuse, d'un camarade de classe rescapé de Tchernobyl, on se demande comment il est arrivé là, qui parle un italien comme un docte universitaire. Et puis c'est l'histoire aussi du vieux Grigou qui l'héberge, ce gamin de Tchernobyl, et qui a toujours un fusil à la main parce qu'il pense que les Russes veulent voler sa maison. Sans oublier un jeune prof qui vit toujours chez sa mère, il a plus de 30 ans, et qui accumule gaffe sur gaffe, un loser à qui on demande un jour d'enseigner le catéchisme. C'est drôle, tendre et tellement généreux, où le romanesque se fait poésie et moment de grâce, où la poésie devient récit, quand des vies minuscules se transforment en épopée. C'est vraiment un livre remarquable.
On rappelle donc le titre déjà de celui-là.
Oui, là je viens de parler de Fabio Genovesi, D'où viennent les vagues, Jean-Claude Lattès,
que l'on trouve aussi donc facilement.
Que l'on trouve dans sa librairie préférée. Et puis Davide Enya, Sur la terre comme au ciel, Albin Michel, 2016.
Qui était là son premier roman.
Et qui, voilà, c'est son premier roman, remarquable.
Bien, merci Dominique. Donc là, on va finir cette émission avec un titre, on va même finir pour ce mois de décembre, avec un titre qui est toujours extrait de l'album Primitivo de Waragnan, et qui est une tarentelle dépouille. Vous savez que dans plusieurs régions d'Italie, il y a des tarentelles. Et donc toujours pareil, le groupe Waragnan avec à la voix Maria Mora Marco, Luigi Bolognese, Silvio Teotte qui font donc du groupe qui sont les fondateurs et qui sont toujours dans ce groupe Waragnan du sud de l'Italie et de la région des Pouilles. Bonsoir à tous. Et puis, passez un joyeux Noël, puisqu'on ne s'entendra pas tout au moins d'ici là.
Lose an eye, love. dat chit kurge mam ka vavne ta daran avan ushla chit da mam stat chit kurge da mama stat chit kurge da mam ka vavne ta daran avan ushla chit da mam stat chit kurge da mama Ja fanut mo scusalizia monta da luelo spizia quando vite lulit tista scappo chiando bella risa quando vite lulit tista scappo chiando bella risa ci te venne sono duro colo zitto sa paura quando vite lulit tista scappo chiando bella risa quando vite lulit tista scappo chiando bella risa ci te venne una gente cala zitto in giudolo la venda quando vite lulit tista scappo chiando bella risa quando vite lulit tista scappo chiando bella risa luatillo gusto mando non ma affligge gusto chiando quando vite lulit tista scappo chiando bella risa quando vite lulit tista scappo chiando bella risa finisce lo gusto chiando che ma passai a causa santa quando vite lulit tista scappo chiando bella risa quando vite lulit tista scappo chiando bella risa luatillo sta bella vesta che venuta la bella festa quando vite lulit tista scappo chiando bella risa quando vite lulit tista scappo chiando bella risa luatillo sti calzito e trupiste dall'ulita quando vite lulit tista scappo chiando bella risa quando vite lulit tista scappo chiando bella risa Se le fate lupa e respira le tre sotto lupare terra Tarandette yinda piyinda la mamma la tenis la colchi yinda Se le fate lupa e respira se tre sotto lupare terra
À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.